France Inter.
Les informations, Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Manu Payet, à la semaine prochaine et bienvenue à tous au sommaire ce soir. Ce braquage dans le plus grand musée du monde, le Louvre, s'est fait voler 8 bijoux d'une valeur inestimable. Les cambrioleurs ont ciblé les joyaux de la couronne de France, de la galerie Apollon. On fera le point sur les premiers éléments de l'enquête. Et avec un début de polémique sur les moyens attribués à la sécurité du Louvre, les joyaux de la couronne de France, qu'est-ce que cela recouvre? Eh bien, nous en parlerons avec l'invité de ce journal, l'historien Didier Ricquert, fondateur de la tribunedelart.com. À la une également, un cessez-le-feu bien fragile à Gaza. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violation de la trêve et Israël décide d'ailleurs ce soir de suspendre l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave. Quel budget pour la France ? Les députés s'apprêtent à rentrer demain dans le dur dès 9h pour tenter de se mettre d'accord avant la fin de l'année. À la une encore, Nicolas Sarkozy qui a passé un dernier week-end de liberté avant de se rendre mardi à la prison de la santé. Mais pour combien de temps? Eh bien, nous verrons cela avec Louise Buyens. Et puis en tennis de table, la France était sacrée, il y a quelques minutes, championne d'Europe par équipe. Le temps de demain, lundi, Magali Rochereau, avec des pluies marquées sur le sud-est.
Oui Eric, la semaine commence sous l'eau avec des températures qui restent douces.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Il n'aura donc fallu que 7 minutes à l'ouverture du musée du Louvre ce matin pour que 3 ou 4 malfaiteurs dévalisent une salle du plus grand musée du monde, la galerie Apollon. Les braqueurs sont partis avec des bijoux d'une valeur inestimable, dit ce matin Laurent Nunez sur France Inter. Valeur à la fois marchande, historique et patrimoniale, on va en parler avec notre invité. D'abord Sarah Guibaudot, bonsoir.
Bonsoir.
Service police-justice de France Inter et on apprend ce soir que 8 bijoux ont été dérobés.
Oui, le ministère de la Culture précise que 8 bijoux ont été volés, 2 diadèmes et 2 colliers sertis de pierres précieuses notamment. Mais les malfaiteurs ont perdu ou abandonné dans leur fuite la couronne de l'impératrice Eugénie. Il est 9h30 ce matin, le musée est ouvert depuis peu quand les voleurs cagoulés et pour certains vêtus de gilets jaunes pour se faire passer pour des ouvriers passent à l'action. Sur le quai François Mitterrand, ils amènent un monte-charge, un camion avec une échelle utilisé pour les déménagements sous les fenêtres de la galerie Apollon, raconte le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.
Ils ont fracturé la fenêtre et puis se sont dirigés vers un certain nombre de vitrines où ils ont dérobé des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale et qui ont une valeur inestimable en réalité. Et puis ils se sont ensuite enfuis, ça a duré 7 minutes, hein, donc ils sont repartis en T-Max.
Et Sarah, l'enquête est confiée à la brigade de répression du banditisme avec l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
Oui, le parquet de Paris et la préfecture de police ont déployé de gros moyens. Les enquêteurs sont en train de réunir et de visionner les vidéos qui permettront peut-être de retracer au moins en partie le parcours des malfaiteurs après et avant le vol. Ils ont sans doute fait des repérages. La police scientifique cherche s'ils ont laissé des traces de l'ADN sur les objets abandonnés dans leur fuite et notamment sur cette fameuse nacelle qu'ils ont tenté en vain d'incendier. Il s'agit d'une équipe chevronnée, a encore dit Laurent Nunez, donc peut-être déjà connu des enquêteurs de la BRB, qui se demande aussi s'il n'y a pas des rapprochements à faire avec d'autres vols commis récemment, comme celui du Muséum d'Histoire Naturelle le mois dernier.
Sarah Guibaudot, service police-justice de France Inter. Et bonsoir Didier Ricquert. Vous m'entendez Didier Ricquert?
Oui, bon, Ricquert.
Ricquert, pardon, vous êtes
Ricquert,
très bien. Et Didier Ricquert, historien, fondateur de la tribune.
Ricquert, mais c'est pas grave.
Écoutez, dites-le une fois pour toutes, puis j'essaie de le répéter. Didier Ricquert, c'est bien ça. Historien, fondateur de la tribune de l'art.com. La galerie Apollon au musée du Louvre, c'est une salle tout en dorure, hein, comme l'a voulu Louis XIV, avec aujourd'hui en son centre une série de vitrines qui abritent ce qu'on appelle les joyaux de la couronne de France. Il s'agit de quoi précisément ?
Alors la galerie d'Apollon abrite effectivement ces joyaux qui sont des bijoux portés, enfin qui appartenaient au roi de France et ensuite qui ont été retravaillés pour les derniers souverains français, c'est-à-dire pour la femme de Louis-Philippe, pour la femme de Napoléon III. Et ce sont des bijoux extrêmement précieux pour l'histoire de France et pour l'art.
Et d'ailleurs, quelles sont les pièces les plus réputées de cette galerie Apollon ?
Il y avait le Régent, heureusement qu'il n'a pas été volé, qui est un bijou, c'est un diamant, le plus gros diamant du monde, un des plus gros diamants du monde.
Il y a le Régent, le Sancy, l'Hortensia, ce sont des diamants historiques. Hein.
Voilà, ils n'ont pas été volés, ceci, c'était déjà une chance. Le reste, ce sont des diadèmes, il y a le diadème de Marie-Amélie, enfin il y a des bijoux de Marie-Amélie, des boucles d'oreilles. Donc j'ai vu la liste à l'instant, donc j'ai pas eu le temps de l'analyser vraiment complètement, mais ce sont des bijoux effectivement très précieux.
On a déjà retrouvé la couronne de l'impératrice Eugénie, une couronne avec 1354 diamants, 56 émeraudes. On l'a retrouvée brisée. Qu'auraient pu en faire les cambrioleurs ? Parce que la revente, elle semble difficile, non ?
La revente est impossible, à moins qu'il y ait quelqu'un de très riche et qui veuille garder ça pour lui, mais ça n'existe pas vraiment, je ne crois pas. On a peur toujours, c'est que ça soit vendu, que ça soit retaillé, que les bijoux soient dépecés et que ça soit vendu comme ça. Voilà, je ne sais pas à qui on peut le revendre. En tout cas, c'est très compliqué parce qu'évidemment, ce sont des œuvres complètement, pas inestimables. Elles sont estimables. Elles valent plusieurs millions d'euros. Sauf que là, elles ne valent rien parce qu'elles sont connues comme étant appartenant au musée.
Elles ne valent rien, mais vous le disiez, vous l'évoquiez à l'instant, ça peut être refondu.
Non, on ne peut pas fondre des diamants et des saphirs. On peut les dessertir.
Je parlais de l'or qui est autour.
Non, l'or, il y a très peu d'or. Il y a très très peu d'or. Pas du tout intéressant pour des voleurs. Mm-hmm. Non, c'est trop peu.
Dans l'histoire de France, ce n'est pas la première fois que l'on cherche à dérober les trésors précieux des rois de France.
Non, c'est pas la première fois. D'ailleurs, en 1792, ces diamants avaient été, enfin, les bijoux de la couronne. Alors évidemment, c'était pas les bijoux de Marie-Amélie et d'Eugénie, mais ont été volés une première fois. Ils ont été retrouvés très peu de temps après. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1887, le vol a eu lieu officiellement par l'État français qui a vendu ces bijoux, alors qu'il n'aurait jamais dû évidemment les vendre, et qu'on les a rachetés depuis. Ça fait quelques années que le Louvre essaie de les racheter, et tous les bijoux qui ont été volés, sauf un de la liste, sont tous des bijoux qui ont été rachetés par le Louvre ou donnés par les amis du Louvre ces dernières années, depuis 1985, des fois en 2008 encore. Donc c'est vraiment une perte très importante pour le patrimoine.
Et comment éviter aujourd'hui que les musées, moins sécurisés que les banques, deviennent régulièrement la cible des criminels ?
Déjà, quand il y a des problèmes d'alarme, on lit dans le communiqué de presse que la fenêtre sur la Seine, l'alarme a sonné. Moi, j'ai des informations différentes et avec des éléments probants. Et des sources internes qui disent que l'alarme n'a pas sonné. Et d'ailleurs, on le sait, puisque il a été dit qu'à 9h36, l'alarme a sonné, et qu'à 9h37, l'alarme a sonné, à 9h38, ils étaient partis. Ça prouve bien qu'à l'entrée, il n'y a pas eu de sonnerie. Donc, il y a une vraie question qui se pose sur cette alarme qui aurait été débranchée parce qu'elle ne fonctionnait pas. Alors, à vérifier, le ministère de la Culture a fait un communiqué en disant que ça avait sonné à l'entrée. C'est pas ce qu'on semble dire depuis le début. Hein. Donc ça, c'est à vérifier.
Eh bien, merci beaucoup de cette explication, Didier Ricmer. Est-ce que je l'ai bien dit, Didier Ricmer ?
Non, toujours pas, mais c'est pas grave.
Écoutez, dites votre nom une fois pour toutes, je n'arrive pas à comprendre.
Didier Ricmer, mais c'est pas très grave.
Bon, très bien. Historien et fondateur de la Tribune de l'art.com. Merci beaucoup et bon début de soirée. Et déjà donc un début de polémique sur d'éventuelles failles de sécurité au Louvre. L'adjoint au logement à la mairie de Paris, le communiste Yann Brossard, rappelle qu'il y a 4 mois, les salariés du Louvre avaient fait grève en dénonçant justement le manque de moyens pour sécuriser le musée.
C'était une grève surprise et je regrette qu'à l'époque, la ministre de la Culture n'ait pas tenu compte de cette alerte et qu'il n'y ait pas de décision qui ait été prise dans la foulée. Pour ce qui concerne les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes puisque en l'espace de 5 ans, il y a eu 200 emplois en moins au musée du Louvre. Et par ailleurs, on a des attaques sur de nombreux établissements culturels, sur de nombreux musées. Et je pense qu'il est temps d'en tirer un certain nombre de conséquences en termes de sécurisation, en termes d'investissement pour éviter que ce type de phénomène ne se reproduise. Mais on ne peut pas balayer d'un revers de main la question des emplois. Et si ces emplois manquent, on finit par le payer sur le terrain de la sécurité.
Voilà, le sénateur communiste Yann Brossat, adjoint au logement à la mairie de Paris, qui demande à la ministre de la Culture de prendre des mesures pour que le Louvre ne soit plus cambriolé. Rachida Dati, par qui l'information a été révélée ce matin, en milieu de matinée d'ailleurs, elle déplore de voir la culture et le patrimoine pris pour cible.
Il faut quand même dire que ce sont des professionnels. La criminalité Justement. Organisée aujourd'hui s'attaque aux objets d'art et les musées, évidemment, sont devenus des cibles. La France est un pays patrimonial, un pays avec des objets historiques, patrimoniaux, d'une grande valeur. Et la vulnérabilité des musées est un sujet ancien. La présidente du musée du Louvre, il y a 2 ans, avait saisi le préfet de police pour un audit de sécurité. Parce qu'il faut adapter ces musées aux nouvelles formes de criminalité.
Et toujours au chapitre politique dans ce dossier, on ajoutera cette déclaration de Marine Le Pen qui déplore, je cite, que nos musées et bâtiments historiques ne soient pas sécurisés à la hauteur des menaces qui pèsent sur eux. Fin de citation.
France Inter, Éric Delvaux.
Après une semaine de cessez-le-feu à Gaza, voilà de sérieux signes de fragilisation de l'accord. Les frappes israéliennes aujourd'hui auraient fait 33 morts dans l'enclave. Israël dit avoir agi en riposte à des attaques du Hamas contre ses positions, ce que dément le mouvement. Israël rétorque que 2 de ses soldats seraient morts aujourd'hui. Vous l'entendez, chaque camp accuse l'autre d'avoir ouvert les hostilités dans l'attente de l'arrivée la semaine prochaine des émissaires de Donald Trump à New York. Correspondance de Loïc Loury.
Le vice-président américain J.D. Vance, Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump et le gendre du président Jared Kushner, tous les 3 sont attendus au Proche-Orient dans les prochains jours, signe que Washington prend la situation très au sérieux. Officiellement, il s'agit avant tout de veiller à la mise en œuvre de la première phase de l'accord de paix de Donald Trump, mais dans ce contexte particulièrement volatile, les pressions diplomatiques pourraient aussi s'accroître vis-à-vis d'Israël et du Hamas. Hier, le département d'État évoquait ainsi des informations crédibles sur une attaque du mouvement islamiste contre des civils à Gaza, façon d'avertir que les Américains veillent au grain. Donald Trump, grand artisan du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, a répété avoir mis fin à la guerre et une reprise des hostilités aussi rapidement ne serait pas bonne pour sa réputation. New York, le Éclairie, France Inter.
Et il y a une heure, Israël a suspendu l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, c'est ce que dit une source sécuritaire israélienne. L'accord de cessez-le-feu prévoit pourtant un afflux d'aide humanitaire pour cette population civile qui manque de tout. Écoutez ce qu'en dit sur place le coordinateur des actions de MSF, Médecins Sans Frontières. Il s'appelle Jacob Granger, que Faustine Calmel vient de joindre à Rafah, dans le sud de l'enclave.
Il y a une frappe qui a eu lieu pas très loin de notre hôpital de campagne et il y a eu 43 personnes blessées, je crois. C'en est qu'une, il y en a eu une autre dans le camp de Nusayrat, qui est à l'intérieur de la ligne jaune, on va dire. Cette ligne qui a été posée par les autorités israéliennes. La population ici, les collègues, ont ce double sentiment contradictoire d'un côté d'un espoir qu'il y ait la paix, sans condition, juste la paix. Et ce désespoir d'avoir une bande de Gaza qui est totalement détruite. Il faut d'abord l'arrêt du conflit, c'est le plus évident. Deuxièmement, d'avoir une visibilité dessus pour pouvoir planifier ça. Et troisièmement, avoir toute l'aide humanitaire, l'aide de reconstruction qui puisse rentrer dans la bande de Gaza sans aucune restriction. Ce qu'il faut, la première chose, c'est de la stabilité et être sûr de cette stabilité et de cette tranquillité. Ce que nous démontrent les frappes qu'il y a eu aujourd'hui à l'intérieur de la zone qui n'est pas censée être frappée par l'armée israélienne, c'est que cette sécurité, cette stabilité n'existe pas à Gaza.
Le représentant de Médecins Sans Frontières à Rafah, joint par Faustine Calmel. Une décision prise d'autorité par Donald Trump. Il suspend dès aujourd'hui toutes les aides financières américaines destinées à la Colombie. C'est une mesure de rétorsion contre le président colombien, accusé de ne pas lutter contre le narcotrafic dans son pays. En France, ce sera demain, dès 9h, à l'Assemblée nationale. La Commission des Finances va lancer la bataille des 1744 amendements. Ce sera le point de départ pour donner un budget à la France avant la fin de l'année. Le gouvernement répète qu'il veut laisser la main aux parlementaires. La recherche d'un compromis, à tout prix, c'est ce que veut Sébastien Lecornu. D'ailleurs, pour la première fois depuis 2022, il n'y aura pas de 49-3 pour mieux laisser place, justement, aux échanges en commission, puis en hémicycle. Sauf que le calendrier est très serré, ce qui fait craindre à certains députés un passage finalement par ordonnance, Mathilde Dehimy.
Les débats sur le fond vont pouvoir avoir lieu, enfin, avancent des députés, quand d'autres estiment que le projet du gouvernement n'est pas assez détaillé et circonstancié pour prendre des décisions. À commencer par la nouvelle taxe sur les holdings, suspectée d'être pour certains patrons un outil d'optimisation fiscale. Des parlementaires doutent déjà de l'applicabilité du mécanisme et du gain avancé de 1 milliard d'euros par Bercy. Le RN veut en savoir plus, quand les oppositions de gauche tenteront, elles, de remplacer cette contribution par la taxe Zuckmann plus large. Passage étroit aussi pour les taxes vapotage ou petits colis. Et débat très agité à venir sur l'impôt sur le revenu pour que les plus modestes ne se retrouvent pas à payer des impôts du fait du gel de l'indexation sur l'inflation. Plus classique, mais tout aussi passionné, seront les échanges portant sur les aides et taxes allouées aux entreprises. Le contexte économique est tendu, rappelle Bercy. Chaque renoncement sur une recette devra être compensé par une moindre dépense. Tout doit aller vite, très vite. Dès vendredi, le texte sera débattu en séance.
Mathilde Dehimi, service politique de France Inter. Nicolas Sarkozy profite d'un dernier week-end de liberté car mardi, l'ancien président entrera à la prison de la Santé à Paris avec une cellule individuelle dans une aile de la prison où il ne pourra rencontrer aucun autre détenu. L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison avec exécution provisoire. Dans le procès libyen, il fait appel. Louis Buy, sauf surprise, il ne va faire qu'un court séjour derrière les barreaux.
Dès le premier jour de sa détention, l'ancien chef de l'État pourra faire une demande de mise en liberté auprès de la Cour d'appel de Paris, qui aura 2 mois pour se prononcer. Vu le profil du demandeur, une magistrate estime que ça va aller assez vite. Et si Nicolas Sarkozy est libéré, possiblement sous bracelet électronique, ça n'est pas pour autant un désaveu de la décision prise par les juges qui l'ont condamné. Puisqu'il a fait appel, l'ex-président a basculé du statut de condamné à celui de présumé innocent, qui est placé en détention provisoire. Dans ce cas-là, les critères du maintien en prison sont ceux de l'article 144 du Code pénal. C'est par exemple le risque de faire pression sur les témoins, de commettre à nouveau le délit ou bien de ne pas se présenter au rendez-vous avec la justice. Dans ces motifs ne figure pas la gravité exceptionnelle des faits. Or, c'est justement celui-là qui a conduit le tribunal correctionnel à condamner Nicolas Sarkozy à une peine avec exécution provisoire.
L'hôpital de Pontarlier, victime d'une cyberattaque. Tout son système informatique est à l'arrêt, y compris celui de l'EHPAD. Et pourtant, les soins continuent ce soir d'être assurés. Mais l'établissement appelle à ne pas surcharger les lignes téléphoniques. Le tennis de table. La France est devenue, il y a 3 quarts d'heure, championne d'Europe par équipe. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Eric.
Ça s'est passé face à la Roumanie. Et les Bleus, emmenés par les frères Lebrun et Simon Gauzy, ont remporté une victoire nette, hein, 3-0.
Oui, et tout a été très vite, puisque dès le premier match, on a senti que cette équipe de France allait faire parler son statut de favori. Alexis Lebrun s'est imposé en 18 minutes. Son frère Félix Lebrun, c'est le plus jeune des deux, 19 ans. Le joyau de la couronne, on peut dire, de cette équipe de France, s'est imposé aussi en 4-7. Et puis Simon Gauzy a fini le travail. Une équipe de France qui s'est imposée évidemment avec sa supériorité, mais surtout de grosses qualités mentales. Jean-Philippe Gatien, vice-champion olympique, champion du monde, lui-même champion d'Europe, nous l'a dit tout à l'heure.
Je les ai trouvés ultra solide, tout en maîtrise, tout en sérénité, tout en efficacité. Ils ont réussi à maîtriser leurs émotions sur une finale où ils étaient archi favoris. C'est jamais évident, hein, quand on a un adversaire présumé plus faible. On a toujours ce syndrome de la pression et du favori, mais en tout cas, ils ont été au sommet de leur art en finale et c'est la marque des grands.
Jean-Philippe Gatien, qui avait obtenu le dernier titre en 1998 avec notamment Damien Eloy et Patrick Schilla. Pour les Français, Eric, c'est un grand chelem au niveau européen avec le titre d'Alexis Lebrun en simple, d'Alexis et de Félix en double. Le top 16, les Jeux européens et ce soir, ce championnat d'Europe par équipe. On peut dire que les Français maintenant sont en position de force pour tenter d'aller chercher plus haut, mais là, ce sera peut-être d'aller chercher les Chinois, ce qui est une autre affaire.
Jean-Pierre Blimaud. En patinage, voilà ce nouveau duo français qui a remporté sa première compétition sur la scène internationale. Un triomphe même pour Guillaume Cizeron et sa nouvelle partenaire, Laurence Fournier et Baudry. Ils ont remporté tous les deux à Angers le Grand Prix de France. On a commencé ce journal au Musée du Louvre. Eh bien, nous allons le refermer en allant à la Fondation Louis Vuitton à Paris pour une exposition. Exposition Gerhard Richter, peintre allemand. Il a 93 ans. Sa rétrospective couvre toutes les périodes de son œuvre et donc tous les styles qu'il a explorés. Julien Baldacchino.
Après Monet, Warhol ou Hockney, Gerhard Richter donne à voir dans chacune des 10 galeries de la Fondation une immense variété de tableaux. Tous sont inspirés de photographies, mais vont du très figuratif au très abstrait. Et c'est cela qui fait sa richesse, selon le commissaire de l'expo, Nicolas Serrota.
Je pense que les gens sont impressionnés parce qu'il peut peindre comme un peintre du 19e siècle, aussi bien que comme un peintre abstrait du 21e siècle. Ce sont juste des façons différentes d'approcher le monde. Il y a des choses que l'on voit et d'autres que l'on sent.
Pour Jean-Paul Claverick, ces expos sont un parti pris. Le directeur du mécénat de LVMH assume qu'en tant qu'institution privée, la Fondation Vuitton choisit des artistes auxquels elle tient particulièrement.
Ce sont des artistes qui sont collectionnés par la Fondation et qui sont souvent collectionnés par Bernard Arnault aussi à titre personnel. Donc ce sont ces partis pris, cet engagement que nous proposons aux artistes pour aller vers le grand public.
Et ça marche. L'expo Rodko a rassemblé 850 000 visiteurs, près d'un million pour Hockney. On regrette seulement l'absence depuis 2020 de grands accrochages collectifs des artistes contemporains de la collection, qui pourtant permettaient de découvrir des artistes moins connus du grand public, mais tout aussi fascinants.
Exposition Gerhard Richter, donc à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonsoir Magali Rouchereau.
Bonsoir Eric.
Eh bien la pluie progresse.
Oui, déjà ce soir et cette nuit, elle s'étire du nord de l'Aquitaine et du Massif central jusqu'au nord-est et côté sud-est plus faiblement de l'Hérault jusqu'au Var. Demain, entre entrée maritime et perturbations, les dégradations s'amalgament. Mais la Provence reste la zone la plus active sous les orages et les passages pluvieux soutenus. À l'arrière, le ciel de traîne est lui aussi toujours actif et particulièrement sous les averses orageuses du côté de la Manche. Alors que du sud-Bretagne à la Gironde et au bassin d'Arcachon en remontant vers la Lorraine, les éclaircies alternent avec les nuages.
Et demain, les températures minimales seront à la hausse.
Oui, les valeurs montent sous la perturbation, comprises entre 10 à 14 degrés en général à votre réveil en ce début de semaine. Quant à demain après-midi, les maximales seront stationnaires. Vous aurez 14 à 18 degrés sur la moitié nord et 17 à 22 au sud. Dans le sud-ouest, elle baisse car l'effet de fun s'arrête. Il fera 22 degrés à Pau et à Biarritz.
La météo de Magali Rochereau.